débute avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est le jour J pour le baccalauréat, sauf que cette année, un appel à la grève de la surveillance des épreuves, appel lancé par plusieurs syndicats, pourrait perturber l'examen. Alors à quoi faut-il s'attendre? Les précisions d'Hakim Kasmi.
Dernière ligne droite pour le procès Balkany.
3 jours de plaidoirie à venir, le détail avec Florence Turm dans un instant.
2 millions de personnes dans les rues à Hong Kong hier pour réclamer le retrait de la loi permettant les extraditions, notamment vers la Chine. Reportage dans un instant.
Au Soudan, l'ex-président Omar El-Béchir jugé 7 semaines pour corruption. Notamment précision de Nabila Hamel. Et puis en Inde, la colère des médecins. Plusieurs centaines d'entre eux ont démissionné ces derniers jours. Des centaines d'autres sont en grève depuis une semaine. Ils protestent contre leurs conditions de travail. Reportage à New Delhi. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Sophie, pourquoi la mer de Mans est-elle une zone stratégique? On posera la question à Didier Billon. Il est directeur adjoint de l'IRIS.
Tous les candidats du bac pourront-ils passer leur première épreuve aujourd'hui? Au-delà du stress de l'examen, c'est la question ce matin dans l'esprit des 743 000 candidats des filières générales, technologiques et professionnelles. Alors que l'épreuve de philo doit se tenir dans moins d'une heure, même jour que le bac français pour les élèves de première. Plusieurs syndicats, dont le SNES majoritaire, appellent à la grève de la surveillance des épreuves aujourd'hui. Une situation inédite pour dénoncer la réforme du bac. Alors à quoi faut-il s'attendre ce matin? Le gouvernement promet que tout a été mis en œuvre pour éviter les perturbations avec des effectifs supplémentaires dans les centres d'examen à Kinkasmi.
Le ministère se veut rassurant mais vigilant sur la tenue des épreuves. Pour anticiper toute perturbation, les effectifs supplémentaires seront prévus pour la surveillance des examens avec des enseignants, des personnels administratifs, mais aussi des vacataires. Jean-Marc Huard, le directeur de la Direction générale de l'enseignement scolaire.
Nous avons l'habitude de réagir à ce type de situation. Il est arrivé que pour des raisons X ou Y, nous devions reporter une épreuve ou nous devions la réorganiser. Il y a eu par exemple il y a 2 ans une perte de paquets de copies qui nous a amené à réorganiser une épreuve après les épreuves. Je suis confiant en nos professeurs, encore une fois. Ils sauront faire réussir leurs élèves jusqu'au bout et être présents le jour J pour les surveillances.
Le ministère prévient également qu'il n'hésitera pas à recourir aux forces de l'ordre en cas de blocage des centres d'examen. Des propos irresponsables pour Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, qui assume le mouvement de grève.
C'est sans doute une méthode exceptionnelle, mais c'est le ministère qui emporte la responsabilité, parce que c'est pas quelque chose qui a surgi de rien. Quand je dis ça fait des mois que nous alertons et que nous rencontrons aucun écho, c'est justement le ministre qui pousse à cela.
D'après les syndicats, ce sont les académies du sud de la France qui devraient être les plus touchées, notamment Marseille, Toulouse ou encore Montpellier, mais aussi Paris.
Hakim Kasmi. La bataille des municipales a déjà commencé en interne à La République En Marche. Alors que Stanislas Guérini, le délégué général de l'AREM, doit dévoiler ce midi les premières investitures en vue du scrutin de l'année prochaine, à Paris, les tensions autour de la désignation se font de plus en plus vives. Dans une tribune publiée hier dans le journal du dimanche, 4 des 6 candidats en lice pour Paris réclament une consultation citoyenne pour les départager face à l'ex-porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, donné favori, remettant en cause la commission d'investiture. C'est le cas de Cédric Villani, député de l'Essonne.
Nous avons besoin de consultations pour la désignation des candidats, des têtes de liste dans de très grandes métropoles comme Paris et Marseille, dans un contexte politique changeant, avec des enjeux complexes. On ne peut pas simplement se contenter d'un examen de dossier, d'un entretien. Il faut ouvrir la discussion, le débat. Le débat démocratique est au cœur des valeurs d'En Marche, est au cœur de nos valeurs et des valeurs des projets pour lesquels nous sommes engagés. Nous avons le temps, nous avons la possibilité de trouver ensemble la bonne formule, celle qui permettra de trouver le bon équilibre entre quelque chose qui serait une primaire qui divise et quelque chose qui est juste un examen, un entretien. Quelle que soit la formule qu'on utilise, la consultation, l'ouverture permettront d'avoir des débats et des projets au cœur des citoyens.
Cédric Villani répondait à Steven Gouaillet pour France Culture. L'ancien ministre Mounir Majoubi, Anne Le Breton et le député de Paris, Hugues Granson, sont également candidats. La décision pour Paris devrait être prise d'ici le 9 juillet. Le procès Balkany touche à sa fin. Le procès des époux Balkany de leur fils Alexandre et de 3 autres prévenus, dont l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al-Jaber, entre dans sa dernière ligne droite. Avec 3 jours de plaidoirie à venir, avec le réquisitoire du parquet national financier qui a réclamé 7 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience et 10 ans d'inéligibilité à l'encontre du maire de Levallois pour ce second volet du procès qui porte sur le blanchiment de fraude fiscale et corruption. Florence Turm.
Pendant longtemps, les époux Balkany ont nié le blanchiment de fraude fiscale avant qu'Isabelle Balkany n'admette avoir acheté la villa Pamplemousse des Antilles avec des fonds familiaux dissimulés en Suisse. Une transaction dont l'accusation a souligné l'opacité par le biais d'une série de sociétés offshore basées au Liechtenstein et au Panama. En revanche, la lumière semble plus difficile à faire sur l'achat de la villa d'Arjoussi de Marrakech, officiellement propriété d'une SCI marocaine, elle-même détenue par une société panaméenne et dont le bénéficiaire déclaré n'est autre que Jean-Pierre Aubry. La semaine dernière, un financier suisse s'est rappelé à la barre des témoins la confidence de l'ancien bras droit du maire de Levallois. « Vous savez bien que je porte pour mon ami Balkany et même si je dois aller en prison, je vais le défendre jusqu'au bout. » Reste à démontrer la réalité d'un pacte de corruption que Patrick Balkany et Mohamed Al-Jaber, aujourd'hui ennemis irréductibles, s'entendent à nier farouchement. Tout aveu de l'un entraînerait la chute de l'autre, a souligné l'accusation, pour qui il existe un lien incontestable entre la maison de Marrakech et le report d'échéance accordé à l'homme d'affaires pour les tours de Levallois. Le principal objectif de la défense sera maintenant de démontrer le contraire.
Une foule immense hier dans les rues de Hong Kong, Sophie.
Oui, ils étaient 2 millions de manifestants selon les organisateurs pour cette marche noire pour réclamer non pas la suspension mais le retrait définitif de la loi permettant l'extradition notamment vers la Chine. Sur place, c'est un reportage de notre envoyé spécial Dominique André.
Démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local, retrait définitif du texte sur les extraditions. Les slogans phares de la marche noire révèlent un malaise beaucoup plus profond de la société hongkongaise. La question de l'avenir de Hong Kong et de ses valeurs démocratiques issues du système britannique revient en première ligne. Si le territoire a été rétrocédé à la Chine il y a 20 ans, le peuple de Hong Kong a lancé hier ce message « Soutenez Hong Kong ». Dans la foule, un jeune patron, Anthony.
Je pense que c'est juste le début d'une longue résistance des gens pour Hong Kong. La demande de retrait de la loi, c'est comme un point de repère, mais il y a beaucoup de sujets profonds, sous-jacents, des sujets sociaux qui préoccupent les gens. Les gens qui ont de l'argent et le pouvoir à Hong Kong abusent de leur pouvoir. Les législateurs du camp du pouvoir qui ont soutenu ce projet de loi, clairement, ne nous représentent pas.
Les autorités ont fait un nouveau geste avec la libération de Joshua Wong, l'un des leaders du mouvement des parapluies en prison depuis un mois. Les organisateurs de la marche noire appellent à la grève aujourd'hui. La situation reste incertaine.
Joshua Wong, le militant pro-démocratie, a juste à l'instant demandé la démission de la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam. Au Soudan, l'ancien président Omar El-Béchir a été conduit hier sous bonne escorte au parquet en charge des affaires de corruption. Il doit comparaître cette semaine. C'est la première fois qu'il était vu en public depuis sa destitution sous la pression de la rue le 11 avril dernier. Il devrait répondre de corruption et de possession illégale de devises étrangères, Nabila Hamel.
Pas moins de 113 millions de dollars ont été saisis en liquide dans la résidence de celui qui a dirigé d'une main de fer le Soudan pendant 30 ans. Des richesses acquises de façon suspecte et illégale, affirmait hier le procureur de Khartoum. C'est après sa destitution, sous la pression de la rue et son arrestation par l'armée, que la justice soudanaise s'est intéressée aux affaires d'Omar El-Béchir. L'homme était à la tête d'un pays qui était classé 172e sur 180 en matière d'indices de corruption. Sa comparution dans la semaine sera-t-elle la première étape d'un parcours judiciaire plus long ? Outre les affaires de corruption et détention illégale de devises étrangères, il fait également l'objet de poursuites pour le meurtre de manifestants durant la répression de la contestation entamée le mois de décembre. Il avait tenté de mater ce mouvement en décrétant l'état d'urgence le 22 février. Qu'en sera-t-il d'autres affaires, comme les soupçons de financement du terrorisme ? Là aussi, pas de précision de la justice quant aux crimes commis au Darfour, qui lui ont valu une inculpation de la CPI, les militaires au pouvoir ont, dès le lendemain de sa destitution le 11 avril, précisé qu'il n'était pas question pour eux de le laisser partir à l'étranger pour le livrer à la justice internationale, comme le demandent les défenseurs de droits de l'homme.
Nabila Hamel. En Inde, des centaines de médecins sont en grève encore ce matin. Dans l'est du pays, ils travaillent pour les hôpitaux publics de l'état du Bengale occidental, un mouvement qui dure depuis lundi dernier en réaction à l'agression de deux médecins dans un hôpital de Calcutta. Le bras de fer se poursuit avec le gouvernement régional qui semble finalement avoir accepté de répondre à leurs demandes hier, Antoine Guinard.
C'est une crise de la santé sans précédent que connaît le Bengale occidental depuis une semaine. La chef du gouvernement régional, Mamta Banerjee, qui avait jusque-là fait la sourde oreille, a finalement accepté dimanche d'accéder aux demandes des médecins grévistes. Ces derniers demandent entre autres un renforcement de la sécurité dans les hôpitaux publics et l'ouverture d'une enquête sur les personnes qui ont agressé deux de leurs confrères lundi dernier. Plus de 700 médecins ont démissionné ces derniers jours au Bengale occidental en soutien aux grévistes et à travers l'Inde, plusieurs hôpitaux publics ont également fait grève samedi. Au All India Institute of Medical Sciences de New Delhi, un des plus grands hôpitaux publics du pays, un médecin qui souhaite garder l'anonymat dénonce une situation devenue critique.
Les hôpitaux sont vraiment débordés. Les médecins doivent soigner 80 à 90 patients externes par jour. Si vous travaillez pendant 48 heures d'affilée et après vous devez gérer les urgences, comment voulez-vous avoir les idées claires ? Il y a un manque total de médecins et d'infrastructures.
Le bras de fer entre le gouvernement du Bengale occidental et les grévistes semble tourner à l'avantage de ces derniers depuis dimanche. Si Mamta Banerjee a accepté de les rencontrer afin de répondre point par point à toutes leurs revendications, le corps médical exige que cette réunion ne se tienne pas à huis clos et qu'elle soit ouverte aux médias. L'association médicale indienne a, elle, décidé de maintenir sa grève nationale de 24 heures ce lundi en signe de protestation contre les violences que subissent les médecins à travers le pays. Jusqu'à 350 000 d'entre eux pourraient y participer.
Antoine Guinard à New Delhi pour France Culture. C'était il y a 80 ans, la dernière exécution publique avait lieu en France le 17 juin 1939. Le tueur en série Eugène Weidmann était décapité à la guillotine devant l'ancienne prison Saint-Pierre de Versailles. Dans le journal de 8 heures sur France Culture, on entendra le témoignage de l'un des témoins de la scène, l'acteur Christopher Lee. Il avait 17 ans à l'époque, une archive de l'émission Mauvais Genre de France Culture à retrouver avec un article en ligne aussi sur notre site franceculture.fr. Le temps, du soleil est partout dès ce matin et des températures estivales comprises entre 16 et 27 degrés. 16 degrés à Brest, 20 à Lyon, 23 degrés à Paris et 27 degrés maximum, ce sera à Perpignan.